Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec la gestion de patrimoine. Chaque semaine, vous le savez, Radio Patrimoine ouvre son micro aux meilleurs experts qui viennent vous aider à gérer au mieux votre épargne. Au sommaire de ce 37e numéro de Cœur de patrimoine, beaucoup d'immobilier. D'abord, on va s'intéresser aux maisons individuelles et notamment en zoomant plus particulièrement sur les maisons neuves. Et puis, on ouvrira une large page consacrée au SCPI, une fiche pratique d'abord, c'est toujours utile, et puis un panorama 2024 de cet actif que vous appréciez tout particulièrement. C'est parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on accueille donc Steve Baudel, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous, directeur marketing et commercial d'Exaom, spécialiste donc de ces maisons individuelles. D'abord, comment ce secteur se porte-t-il en ce début d'année ? C'est vrai que il y a eu beaucoup de questions au cours de l'année passée, voire un peu plus autour de cette maison individuelle. On a prononcé des mots sur le monde immobilier, reprise, regain d'intérêt, etc. Est-ce que c'est aussi le cas pour la maison individuelle ?
Merci. Bien, écoutez, déjà, on termine le chapitre 2024, qui était quand même la pire année pour la construction de maisons individuelles en France. Hein. On est descendu en dessous des 50 000 maisons vendues, alors que le régime moyen, c'était plutôt de l'ordre de 110 000 maisons par an. Mmh. Alors ça, c'est dû bien sûr à la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et le manque cruel du prêt à taux zéro pour les maisons individuelles, parce que depuis avril 2024, nos clients ne pouvaient plus bénéficier de ce prêt avantageux, aussi psychologique, pour que les clients puissent se lancer dans leur construction. Alors, cet épisode est terminé. On a repris les couleurs sur le deuxième semestre. On a vu aussi que la conjoncture économique, politique, s'est un petit peu calmée sur le deuxième semestre. Mmh. Donc, les clients ont repris confiance, parce que vous savez que le moral des ménages, c'est aussi déterminant lorsqu'on se lance dans un investissement comme la construction de maisons. Alors, depuis vraiment les trois derniers mois, on a un regain. On a un regain de contact. On a un regain des ventes. Alors, concernant notre groupe Exaom, on a fait un bon dernier trimestre. On a fait plus 18% de ventes et on a un bon début d'année. On a plus 40% de contacts. Donc là, on voit un vent nouveau revenir. En plus, avec un budget qui est maintenant voté et a priori un prêt à taux zéro qui revient. Donc,
les justement, ce prêt à taux zéro, c'est vraiment l'essentiel, on va dire, le voir justement de retour, etc. C'est le petit plus qui rend les perspectives plus réjouissantes.
Bah, c'est un vent nouveau parce que nous, on a à peu près 55% de nos clients qui sont des primo-accédants, donc qui font construire pour la première fois. Et effectivement, quand vous lancez dans un projet, le prêt à taux zéro peut représenter une enveloppe assez importante dans le domaine. Il est psychologique aussi, ce prêt à taux zéro. C'est-à-dire que, quelque part, on donne un coup de main sur les premières mensualités pour nos clients. Donc, il était important qu'il soit remis autant pour la maison individuelle qu'il avait lieu pour un appartement dans le neuf, par exemple. On a à peu près 36% qui sont des secondo-accédants, mais quelque part, les secondo-accédants vont pouvoir faire leur deuxième accession s'ils ont pu vendre. Et la plupart du temps, ils ont vendu à un primo. Donc effectivement, le prêt à taux zéro a une incidence immédiate pour nos ventes, mais également pour les ventes de secondo-accédants.
Vos ventes, elles concernent quoi ? Essentiellement des gens qui viennent acheter leur résidence principale, leur maison, j'ai envie de dire, celle dont tout à chacun rêve avec son carré de jardin, etc. Ou est-ce qu'il y a aussi une part d'investisseurs, de gens qui font finalement de l'investissement locatif, mais au lieu de le faire dans du collectif, ils viennent le faire dans de l'individuel ?
Alors bien sûr, la maison individuelle, c'est un attrait pour les investisseurs, parce qu'il y a plein d'atouts, on y reviendra tout à l'heure. Nous, les investisseurs locatifs, c'est à peu près 6% de nos clients. Alors,
d'accord.
C'est pas énorme, parce qu'on est plutôt nous cataloguer comme un constructeur de maisons généraliste sur mesure, avec plutôt une tendance de maisons de l'ordre de 105-110 mètres carrés. Néanmoins, on a un tiers de nos maisons qui sont en dessous de 90 mètres carrés, et ça correspond parfaitement à la typologie des achats pour un investisseur.
Alors justement, si on s'intéresse, si on rentre un petit peu dans le leitmotiv de ces investisseurs, pourquoi est-ce que ce serait intéressant de se dire « je vais investir dans une maison individuelle et la louer ?»
Alors, il y a plusieurs atouts pour louer, pour investir dans une maison individuelle. Déjà, se projeter sur l'occupant. Alors, l'occupant, lorsqu'on veut mettre un bien en location, on s'assure que ce bien répond à une demande.
D'accord.
Et alors, ce qui concerne le manque de logement en France, il s'avère qu'il manque beaucoup de T3, T4. Donc, c'est pour ça que la maison peut rentrer typiquement dans le spectre des investisseurs. Deuxièmement, La maison individuelle, c'est comme le logement préféré des Français. Donc, il y a un attrait plus fort lorsque vous êtes dans une maison par rapport à un appartement. Les locataires vont parfois prendre un peu plus soin de leur maison parce qu'ils se projettent. Il y a un extérieur, donc on peut mieux louer parfois son logement. Puis il y a une notion de rentabilité intéressante dans la maison individuelle parce que souvent, nos maisons, pour un investisseur, sont dans un parc où il y a des résidences principales. Donc, quelque part, il n'y aura pas une décote lorsqu'il y a une revente.
Mmh, d'accord.
Donc, ouais, valeur
alors
patrimoniale
que dans un
augmente.
Immeuble qui aurait fait l'opération, enfin l'objet d'une opération immobilière, souvent, il y a beaucoup, beaucoup de locataires.
De 9 ans, par exemple.
Ouais, qui sont sur des plans où tout le monde termine en même temps. Est-ce qu'il y a aussi moins de turnover, peut-être ? Est-ce que les locataires qui rentrent dans une maison à louer, ils restent plus longtemps que dans un appartement équivalent, puisqu'on parlait de T3, T4.
Alors oui, parce que même dans une maison neuve, leurs charges, donc les économies d'énergie qu'ils vont avoir dans une maison, sont plus importantes que dans un logement un peu plus ancien. Nous, elles sont aux normes, donc quelque part, ouais. Ils sont bien, ils sont confortables. Il y a un rafraîchissement l'été, il y a un chauffage intéressant et pas trop onéreux l'hiver. Et souvent, la maison, quelque part, ça va être aussi la possibilité de l'acheter au bout d'un certain temps. Donc, pour l'investisseur, c'est double détente. Ils ont un locataire qui reste un peu plus longtemps, donc il y a moins de vacances locatives. Et quelque part, ils peuvent aussi être le futur acheteur.
Et ça, vous le mesurez, vous accompagnez parfois des clients sur l'idée d'exploiter puis de revendre cette maison que vous aurez construite ?
Alors, on suit nos clients et puis on a des choses très intéressantes à leur proposer parce que on a un parcours client qui dure assez longtemps quand même dans la maison. Hein. Il y a 10 ans de garantie sur l'assurance dommage ouvrage. Donc, on garde un lien avec eux. On leur propose éventuellement de la gestion et on leur propose également d'agrandir, de faire une extension. S'ils veulent améliorer le patrimoine de leur maison, on peut aménager les combles, on peut faire une extension. Et depuis quelques temps, là, on peut même leur proposer une tin house dans leur jardin afin de pouvoir augmenter la surface de mètres carrés qu'ils pourraient avoir.
Ouais, c'est ça. C'est un truc de plus en plus en vogue. Hein. Il y a quelques noms qui ont émergé ces dernières années. Et vous avez acquis Natibox, donc construction de studios de jardin. Mmh. Vous nous en dites quelques mots ? Parce que c'est une solution aussi pour... C'est presque une pièce en plus. Hein.
Alors, ça peut être une pièce en plus. Ça peut être pour des investisseurs également une manière de diversifier son portefeuille. Avoir donc 20 ou 30 mètres carrés dans un endroit bien situé où le foncier a une valeur importante, de pouvoir donc faire un investissement locatif. Effectivement, Natibox, c'est une concession que nous proposons sur toute la France. Et ce qui est important, c'est que nos Natibox sont produites en France avec une usine qui est fait de l'ossature bois. Et donc, ces Natibox, elles sont construites en usine et on vient les déposer directement dans le jardin de l'investisseur. On prépare le terrain, mais ça va très vite. Et le studio est complètement aménagé. Donc
et on choisit son aménagement. Enfin, ça peut être studio, mais une pièce en plus. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, le bureau dans lequel on va faire du télétravail. Ça peut être...
Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un tiers de nos Natibox qui sont à destination d'un investissement locatif.
D'accord.
Les autres destinations sont, bien sûr, vous l'avez dit, le télétravail. Ça peut être aussi l'hébergement d'un aîné, hein, clairement. Donc, c'est mieux de l'avoir près de chez vous. Et ça peut être aussi un endroit pour travailler, une profession libérale qui a envie d'avoir son espace à lui et pas être dans la maison directement. Donc là, vraiment, depuis la pré-Covid, on a vu arriver cet aspect de télétravail. C'est pour ça qu'on a voulu, nous, investir dans cette usine et de produire nous-mêmes nos Natibox et les proposer partout en France.
Alors, on essaye, Steve Baudel, dans Cœur de Patrimoine, d'être aussi très pratique. Alors, belle description de cet intérêt que pourrait avoir la maison individuelle, y compris pour un investisseur. Aujourd'hui, justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez 3-4 conseils un peu clés à leur donner pour aborder cette idée, cette aventure de la maison individuelle ?
Alors, le premier conseil, c'est bien sûr de sélectionner un opérateur qui va pouvoir les accompagner sur toute la période de la construction, bien sûr, mais également l'aspect en amont, c'est-à-dire que bien choisir un foncier, ça c'est important, choisir la typologie, comme nous on fait vraiment des maisons sur mesure, on peut vraiment conseiller l'investisseur sur le nombre de chambres, sur la surface qui va répondre à une vraie demande locative, donc nous on fait des études avec les investisseurs, hein. Donc ça c'est important, une bonne conception en amont, intégrer le coût global et le, quelque part les, l'entretien de la maison qu'ils n'auront pas à faire quand c'est une maison neuve. Parce que bon, bah, aujourd'hui, on est à 95% en pompe à chaleur. Donc, vous voyez, ça apporte une économie pour le locataire, mais également pour l'investisseur. Mais il aura une valeur patrimoine qui sera améliorée. Donc, vraiment une bonne conception à la, au départ, une bonne étude.
Prendre le temps d'étudier son marché, le lieu, la construction, etc.
Voilà, et faire le, vraiment un projet dans sa globalité. Une construction, bah derrière, il y aura des raccordements, des branchements, et tous les constructeurs aujourd'hui peuvent proposer une solution vraiment de clé en main, prêt à louer directement. Donc ça, c'est important. Orienter avec nous ce qu'ils veulent faire derrière, parce que souvent, c'est une opération de patrimoine, hein, c'est une rentabilité qu'il faut regarder. Donc bien imaginer aussi ce qu'on peut faire dans un deuxième temps de sa maison. On voit aussi, nous, des investisseurs, et à la, au bout d'un certain temps, bah, ça devient leur résidence secondaire,
oui,
où ils font une extension pour améliorer et qu'ils aient envie d'y vivre. Soit on dit qu'un investissement, il n'y a pas de sentiment, mais pour la maison, il y en a un petit peu plus, parce qu'on se projette véritablement dans le futur.
Et bien voilà quelques idées à avoir en tête quand on réfléchit à investir dans l'immobilier. On peut penser à la maison individuelle. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Steve Baudel, donc, pour Exa Home. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Et nous, on poursuit notre aventure Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Cœur de patrimoine cette semaine, très coloré immobilier. Après avoir causé de la maison individuelle, on ouvre une large page consacrée au SCPI. On va profiter de l'expertise de Yann de Florenne dans un instant pour proposer une petite fiche pratique de cette SCPI qui vous intéresse beaucoup. Et puis, dans un instant, on ira aussi faire un petit panorama de 2024 grâce à France SCPI. Yann, bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine, directeur associé de Modo Patrimoine. On rentre donc dans ce monde des SCPI. Alors, ces quatre lettres, elles sont bien connues de l'épargnant, mais tout le monde ne sait pas forcément bien ce qu'est une SCPI, comment ça fonctionne, quelle en est la fiscalité, etc. Alors, on va essayer tous les deux de faire vraiment la petite fiche pratique, tout ce qu'il faut savoir sur ces fameuses SCPI. D'abord, pourquoi voilà, qu'est-ce que c'est que cette SCPI? Comment ça fonctionne?
Alors, on a tendance à définir la SCPI comme de l'investissement immobilier sans les contraintes, et je suis totalement en phase avec cette définition. De la SCPI, c'est un véhicule d'investissement qui va nous permettre d'investir dans de l'immobilier, non pas en direct, mais à travers une société. On va acheter des parts de société, on va devenir associé, et on va confier notre argent à des gestionnaires professionnels de l'immobilier qui ont une expérience, une expertise de plus de 15, 20, 30 ans dans le secteur de l'immobilier. Ces gestionnaires, avec notre argent, ils vont avoir accès à un parc immobilier premium auquel n'importe quel épargnant lambda n'a pas accès. Ça va être des achats d'immeubles de plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros dans tout secteur, à la fois géographique, en France, à l'étranger, mais aussi thématique. On peut faire l'acquisition de bureaux, de commerce, de logistique, d'hôpitaux, de résidentiels, ça peut être très varié. Une fois qu'on a acquis ce patrimoine immobilier, on va émettre des locataires. Avec ces locataires, on va signer un bail de location. En général, en moyenne, en SCPI, les baux ont une durée d'une dizaine d'années.
D'accord.
Et pour vous donner quelques exemples de locataires, on va retrouver par exemple Franprix, Carrefour, Castorama,
on a la SNCF,
H&M,
enfin, ouais.
Des groupes très solides, donc ce qui est plutôt rassurant au niveau des locataires. Et ces locataires, comme de l'immobilier classique, ils vont payer un loyer à la SCPI et la SCPI va nous reverser, à nous investisseurs, le loyer au prorata des nombres de parts qu'on détient.
Alors pourquoi, bon, fonctionnement assez simple et bien expliqué, mais pourquoi est-ce que ce produit financier, cette SCPI, est devenu à ce point un outil qu'on qualifie assez facilement d'incontournable dans toute bonne gestion de patrimoine qui se respecte?
Ça va être un outil très intéressant pour une stratégie de diversification. Selon moi, pour quatre points principaux. Déjà, on va avoir une diversification géographique. Il y a des SCPI qui vont investir partout en France, partout en Europe, voire même partout dans le monde. Un petit clin d'œil, il y a une SCPI très récente qui vient d'être créée, Quorum USA, qui débarque sur le marché américain. Et donc, on va déjà avoir une diversification géographique. Contrairement à de l'immobilier en direct, on ne va pas dépendre que d'un seul secteur.
D'accord.
Donc déjà ça, ce qui est inaccessible en tant que particulier lambda. Ensuite, diversification thématique. comme je l'ai dit précédemment, on va avoir des SCPI, on peut investir dans n'importe quel secteur d'activité, commerce, hôpital, logistique.
Ça évite de se faire plomber parce qu'il y a un problème dans le bureau.
Exactement, ça évite de ne dépendre pareil que d'un seul secteur d'activité. Troisièmement, ce qui va être intéressant, c'est la mutualisation du risque. En SCPI, on va être des dizaines de milliers d'associés à partager, à porter le risque, à porter l'investissement. Et deuxièmement, les SCPI, elles vont avoir des dizaines, voire des centaines de locataires différents. Ce qui fait que si jamais il y a un locataire qui ne paye pas, ça va être compensé par tous les autres locataires. Versus immobilier en direct, on a un appartement, notre locataire ne nous paye pas, on le ressent immédiatement dans notre poche. Et enfin, dernier point qui est plutôt important, c'est au niveau de la liquidité. On peut avoir une liquidité qui va être plus importante que de l'immobilier en direct. Je m'explique. Aujourd'hui, on achète un appartement à 100 000 euros. Ouais. On a besoin de récupérer 30 000 euros. On ne peut pas vendre une pièce de l'appartement. Je ne peux pas dire je vends ma salle de bain, je récupère 30 000 euros de cash. Avec la SCPI, vous avez la liberté de revendre pour 30 000 euros de part, garder 70 000 euros investis et récupérer votre cash. Petit avertissement néanmoins, la SCPI, comme de l'immobilier classique, ça va dépendre d'une
ça
des
peut
lois.
Fluctuer.
La loi la plus basique dans l'économie, l'offre et la demande. Donc, en fonction du contexte, en fonction de la liquidité, cette liquidité, justement, va être plus ou moins importante. Ouais.
Et, bon, n'empêche que cette SCPI, je le disais, enfin, cette classe d'actifs, elle est très connue, très demandée. Enfin, voilà, on en entend beaucoup parler. Et on sait qu'il y a un choix quand même assez substantiel sur le marché. Maintenant, il faut aussi savoir faire son choix. J'imagine que toutes les SCPI ne se valent pas. On verra dans un instant avec Paul Bourdois, justement, ce qu'on peut dire de ces SCPI en 2024. Mais vous, en tant que CGP, comment est-ce que vous cherchez un petit peu à déterminer quel SCPI doit être investi ?
Il y a un peu plus de, en 2024, un peu plus de 216 SCPI sur le marché, toutes avec une stratégie différente. Moi, ce qui va m'intéresser, ce qui va être pertinent de regarder, il y a plusieurs critères de base. Premièrement, ça va être la qualité du patrimoine. Dans quelle ville, dans quel secteur géographique c'est investi? Quels sont les locataires? Premièrement. Deuxièmement, le taux d'occupation financier. Est-ce que les loyers sont bien recouvrés tous les mois? Si on a un taux d'occupation financier supérieur à 90-95%, c'est rassurant. En troisièmement, on va regarder le rendement passé, sa stabilité dans le temps. Bien entendu, ça ne préjuge pas des rendements
bien
futurs.
Sûr, mais si on a le rendement passé.
Exactement, la phrase bien connue. Mais si on a une SCPI qui, depuis 10-15 ans, a des rendements qui sont plutôt stables dans le temps, ça va être rassurant. Et enfin, dernier point super important, c'est la stratégie de diversification d'une SCPI. Comme on l'a dit tout à l'heure, une SCPI qui investit dans plusieurs secteurs géographiques, dans plusieurs secteurs d'activité qui ne dépend pas d'un seul secteur, ça permet de mutualiser le risque. Et ça reste très important.
Et est-ce que ce n'est pas un petit peu dépersonnalisé? Enfin, je veux dire, on achète, comme vous l'avez dit, des parts. On ne sait pas, parce que souvent, on dit les propriétaires, ils sont un peu amoureux de leur bien immobilier. Mmh. Là, j'ai envie de dire, on sait où on est ou on ne sait pas? Enfin, on sait, par exemple, que tel immeuble, j'en ai une petite part. Ou on sait tout ça quand on détient des parts des SCPI. On peut vraiment savoir, telle adresse, c'est un peu chez moi.
Alors, effectivement, je vais dans votre sens. C'est vrai que la première fois que je parle à des clients de SCPI, forcément, nous, Français, on est très attachés à la pierre tangible. Donc, ça paraît un peu obscur. On achète des parts de société, on ne sait pas où
on
investit.
Dire, on est un numéro parmi tant d'autres. Quoi.
Exactement. Cependant, n'importe quel SCPI a l'obligation de fournir ce qu'on appelle un DIC, un document d'information clé, où il y a le détail du patrimoine.
D'accord.
Et vous baladez, je parlais de tout à l'heure l'exemple des Franprix. Beaucoup de Franprix dépendent de SCPI. Beaucoup de bureaux à la Défense sont détenus, les locaux sont détenus par des SCPI. Donc vous pouvez très bien vous balader dans Paris, en province ou ailleurs, en vous disant « je suis propriétaire d'un bout de cet immeuble ». C'est tout à fait possible de le savoir, oui.
Bon, pour autant, c'est quand même de l'immobilier facile, non? C'est-à-dire que on sait que quand on est investisseur locatif, parfois on est appelé pour aller changer de chasse d'eau qui fuit. On peut avoir ce type de soucis. Il faut parfois s'occuper des quittances de loyer si on n'a pas donné en gestion. Quand il y a du turnover, il faut s'en occuper aussi. Et on dit souvent, les SCPI, en fait, c'est de l'immobilier facile, on n'a rien à faire. On investit et après, ça tombe tout seul. C'est un peu vrai?
Je suis totalement d'accord et je vous réponds avec un grand oui. Aujourd'hui, dans de l'immobilier en direct, lorsque vous voulez investir, vous devez déjà sélectionner le secteur où vous allez acheter, la ville. Ensuite, dans la ville, trouver l'appartement. Une fois que vous avez l'appartement, potentiellement refaire des travaux. Mmh. Ensuite, chercher le locataire, gérer le locataire, gérer les travaux imprévus, les quittances de loyer, les règles de charge. C'est très chronophage. Mon but, c'est pas du tout d'opposer immobilier direct et indirect. Là, c'est plus un comparatif, alors que versus SCPI, vous investissez votre argent, vous attendez vos loyers et c'est tout.
Quand on investit en immobilier, et c'est d'ailleurs un des gros points positifs de l'immobilier patrimonialement, c'est d'utiliser le levier du crédit. En clair, c'est la banque, pour ainsi dire, qui finance le bien immobilier, ou en tout cas qui vous aide à financer ce bien immobilier. C'est possible en SCPI, on peut acheter une SCPI et taper à la porte de son banquier en disant « dis donc, il faudrait me faire un prêt ».
Totalement possible d'investir en SCPI à crédit. Néanmoins, il y a des avantages, des inconvénients.
C'est-à-dire
les avantages pour la SCPI à crédit, premièrement, c'est que beaucoup d'organismes permettent d'emprunter quasi sans apport. On va juste avoir quelques centaines d'euros pour les frais de dossier.
D'accord.
Aujourd'hui, dans l'immobilier en direct, on est plus 10, 15, 20% d'apport. Deuxièmement, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir une participation mensuelle qui va plutôt être stable dans le temps. On va avoir d'un côté le crédit, de l'autre les loyers, et pas de mauvaise surprise. À la fin de l'année, il n'y aura pas de taxe foncière, une régule de charge ou des travaux imprévus.
Ouais.
Donc ça permet de prévoir, de budgétiser un petit peu. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que lorsqu'on fait de l'emprunt à crédit, on va pouvoir déduire fiscalement les intérêts. Donc ça, bien entendu, ça va être un avantage fiscal. Au niveau des inconvénients, je vois deux inconvénients majeurs. Premièrement, c'est au niveau des taux d'intérêt. Lorsqu'on investit en crédit à SCPI, les taux d'intérêt sont toujours plus importants que pour l'immobilier en direct. C'est à mi-chemin entre crédit conso et crédit IMO. Quelques clients exceptionnellement parviennent à obtenir du crédit IMO pour de la SCPI, mais en général, voilà, les taux sont plus élevés. Et deuxièmement, c'est qu'il est très difficile, voire quasi impossible, de renégocier son taux. Et ça, quand les taux baissent, forcément, c'est préjudiciable pour l'investisseur en SCPI à crédit. Ouais.
Bon, vous avez presque dit un mot déjà de fiscalité. C'est inévitable. Dès qu'on parle de patrimoine en France, d'épargne, forcément, il faut parler de fiscalité. Justement, qu'est-ce qu'il en est de la fiscalité de ces revenus de SCPI? Est-ce qu'il y a des stratégies d'optimisation? Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux? Enfin voilà, à quelle sauce on est mangé quand on investit en SCPI, fiscalement parlant, j'entends?
D'un point de vue fiscal, la SCPI, les revenus de SCPI sont assimilés à des revenus fonciers.
D'accord.
Ils vont être soumis à votre taux marginal d'imposition, qui va de 0 à 45%, plus aux prélèvements sociaux de 17,2%. Donc, si l'investissement est mal calibré, il va y avoir un impact fiscal qui peut être très conséquent et forcément qui va venir grignoter le rendement.
D'accord.
Il y a des solutions d'optimisation. Premièrement, on l'a dit, l'investissement à crédit, on va pouvoir déduire fiscalement les intérêts, donc faire baisser les loyers nets imposables et donc la fiscalité. Mais deuxièmement, une solution qui est très intéressante, c'est de sélectionner des SCPI dont le patrimoine est situé à l'étranger. On est fiscalisé dans le pays où est généré le revenu, où est situé le patrimoine.
D'accord.
Une SCPI qui a son patrimoine 100% à l'étranger, je vous apprends rien en vous disant que la France, on est un des pays où la fiscalité est la plus conséquente.
On en entend tellement parler.
Surtout en ce moment. C'est une bonne source d'optimisation parce que dans les SCPI qui investissent à l'étranger, les loyers, la fiscalité sur les loyers est optimisée parce que la fiscalité étrangère est beaucoup plus douce que la fiscalité française.
Donc voilà, donc pas d'avantage fiscal attaché à quelques SCPI que ce soit, c'est un actif immobilier comme un autre, on est d'accord?
Exactement, c'est ça.
Bon, je le disais en préambule, les SCPI, c'est un peu le truc dont tout le monde parle, et tant et si bien que ces derniers mois, on en a un peu plus souvent parlé négativement que positivement, en tout cas pour certaines SCPI. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de cette crise, entre guillemets, des SCPI?
Exactement. Alors, depuis 2023, il y a à peu près une trentaine de SCPI sur les 216 qui existent, qui ont connu une baisse de leur prix de part. La valeur de leur SCPI, de leur part, pardon, a baissé. Et ces SCPI qui ont connu des baisses, on observe deux points communs. Premièrement, c'est une absence de maîtrise de la collecte. Il y a pas mal de SCPI qui se retrouvent avec beaucoup plus d'argent qu'elles n'en avaient besoin, sans savoir trop quoi en faire. Donc l'argent n'était pas investi, il n'y avait pas de rendement. Donc perte d'intérêt. Et deuxièmement, c'est des SCPI qui étaient monocentrés et qui n'étaient pas diversifiés ni géographiquement,
d'accord,
ni thématiquement. L'exemple, c'est vrai, des bureaux à la Défense, par exemple, où il y a eu une belle baisse. Un autre exemple assez concret, qui remonte un petit peu, mais mars 2020, Covid, premier confinement, c'était toutes les SCPI qui étaient investies 100% en hôtels. Pendant quelques mois, voire années, les hôtels, il n'y avait plus de revenus, donc une baisse des prix de part. Ouais. La diversification, ça reste quelque chose de super important, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Ouais.
Bon, pour terminer, qu'est-ce qu'on donne comme petits tips à un auditeur qui, ce matin, se dirait, tiens, je vais faire de la SCPI?
Alors, bien entendu, hein, tous les conseils doivent être personnalisés. Ça dépend de la situation, l'âge, l'horizon de placement, la stratégie. Mais si je devais donner quelques conseils généraux avant d'investir en SCPI, tout d'abord, c'est considérer la SCPI comme un investissement de long terme. C'est pas un produit de spéculation, contrairement à une action. C'est plus un produit de rendement pour se créer des revenus complémentaires. On n'achète pas une SCPI pour la revendre dans un an en espérant faire x2. Premièrement. Deuxièmement, c'est un conseil que je m'applique et que j'applique que je conseille à quasi tous mes clients qui sont encore en pleine carrière professionnelle, qui n'ont pas forcément besoin de revenus complémentaires dans l'immédiat. Ce qui va être super intéressant, c'est de réinvestir automatiquement tous les revenus perçus dans l'achat de nouvelles parts de SCPI. Et ça, l'effet multiplicateur des intérêts composés, il est incroyable et ça peut donner des très beaux patrimoines sur le long terme. Et enfin, si je devais donner le dernier conseil qui est pour moi le plus important, si vous voulez bien réussir votre investissement SCPI, c'est tout simplement de venir me voir.
Voilà, tapez Modo Patrimoine et vous aurez le bon interlocuteur, Yann de Floren. Merci Yann.
Merci Cédric.
D'être passé. Et puis tiens, tant qu'on fait votre promo et puisque vous parlez des intérêts composés, on avait causé de tout ça. Donc en cherchant bien dans le moteur de Radio Patrimoine, vous retomberez sur le petit exposé qu'on avait fait sur ces intérêts-là. À très bientôt. Et nous, on continue notre voyage dans le monde des SCPI. On va regarder justement ce qui s'est passé en 2024. À tout de suite.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et pour compléter donc ce panorama immobilier lié au SCPI, eh bien on accueille Paul Bourdois. Bonjour Paul.
Bonjour Cédric Decoeur.
Merci d'être au rendez-vous, cofondateur de France SCPI. Alors on vient avec Yann de Floren de faire vraiment la petite fiche pratique pour toutes celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce fameux monde des SCPI. Avec vous, on va regarder un peu comment s'est passé 2024, etc., de voir ce qu'on peut dire de ces fameuses SCPI. Et d'abord, d'un phénomène qu'on a remarqué au cours des derniers mois, c'est vraiment une espèce de polarisation croissante du marché de ces SCPI, où finalement quelques-unes captent une grosse partie des flux, pendant que les autres sortent un peu les rames.
Oui, et qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça?
Comment on explique qu'il y ait un petit peu cette polarisation un peu extrême?
Ça tient en un seul mot et je vais vous le répéter trois fois, c'est le rendement. Ouais. Aujourd'hui, on ne regarde plus que ça, c'était déjà le cas auparavant. Hein, et évidemment, on le comprend, vous comme moi, en tant qu'épargnant, on est attiré vers le rendement, les SCPI qui rémunèrent le plus l'argent qu'on a mis beaucoup de temps à gagner. Et en effet, aujourd'hui, il y a une polarisation, vous le disiez, une fragmentation vraiment des rendements. Il y a le meilleur et le pire. Je ne dis pas que c'est un bon raisonnement, mais en tout cas, il y a des SCPI qui atteignent les 10% de rendement. Donc forcément, quand la moyenne est aux alentours de 4,7%, on peut se poser des questions et on peut être attiré par ces SCPI qui rémunèrent le plus.
Mais qu'est-ce qui contribue finalement, si on devait essayer de pointer quelques facteurs clés qui justifient, contribuent à ce rendement moyen des SCPI que vous venez de citer, quel serait-il ?
En fait, ce qui permet d'avoir ce rendement stable, hein, cette moyenne stable de 4,7%, je crois qu'il ne faut pas, dans un premier temps, oublier que le sous-jacent c'est de la SCPI, c'est de l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est relativement stable dans le temps. On n'a jamais plus de 8% de rendement, mais jamais plus de moins de 4% en moyenne, évidemment. Et puis, il y a une autre chose qui fait qu'on a du rendement et un rendement stable dans le temps, en dépit des meilleurs et des pires, c'est évidemment l'aspect diversification. C'est-à-dire que dans une SCPI, vous pouvez investir sur différentes classes d'actifs, différentes typologies, et ça permet d'avoir différents cycles immobiliers avec soi, et puis différents rendements, tout simplement.
Et c'est vraiment ce mot-là que Yann de Floren prononçait déjà, hein, le fait de se diversifier. C'est aussi celles qui étaient les plus diversifiées qui s'en sont le mieux sorties lors de la crise des SCPI ces derniers mois. Quels sont un petit peu leurs, je ne sais pas si on peut dire leurs martingales, mais ce qui les caractérise le plus, la stratégie qu'elles ont adoptée pour être à ce point diversifiée et performante?
Alors, ce n'est pas tant la diversification qui joue, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avant, il y avait des SCPI ultra spécialisées, donc chacune dans leur classe d'actifs, bureaux, commerce, etc. Mmh. Aujourd'hui, elles sont majoritairement toutes diversifiées et elles tendent à être toutes diversifiées. Donc, c'est pas tant la diversification qui joue, c'est plutôt la nouveauté. Et l'aspect nouveauté, l'aspect lancement dans les deux dernières années fait qu'elles profitent d'un moment de marché. On dit souvent un momentum pour faire savant, un moment de marché qui est extrêmement intéressant, qui est favorable aux acheteurs et pas aux vendeurs. Et donc, en achetant aujourd'hui des actifs, eh bien, elles s'assurent. Elle s'assure, même si rien n'est garanti dans les SCPI et dans l'immobilier, mais elle s'assure d'avoir un rendement, de servir un rendement intéressant à leurs clients. C'est plus ça qui joue.
Mais c'est-à-dire, vous observez vraiment scrupuleusement l'ensemble des SCPI, etc., pour les analyser et les proposer à celles et ceux qui suivent France SCPI. Aujourd'hui, comment est-ce que... Enfin, vous avez l'impression qu'elles repensent un peu leur stratégie, qu'elles essayent d'ajuster dans ce monde immobilier qui est quand même basé sur des tendances très longues, très lourdes, etc., pour justement rester attractive, performante, etc. Il y a une revue stratégique, par exemple ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que, comme je le disais à l'instant, avant, les SCPI étaient assez monotypologiques. Elles D'accord. étaient monotypologiques et puis elles étaient monogéographiques, on peut dire. En tout cas, elles restaient en France et principalement sur des bureaux, puisque c'est ce qui compose majoritairement l'immobilier d'entreprise, donc qui est l'immobilier dans lequel investissent les SCPI. Et il se trouve qu'aujourd'hui, elles peuvent, un, investir sur différentes classes d'actifs. Elles sont pas cantonnées à une seule classe. Et puis, deux, elles peuvent aussi investir hors de France, ce qui est favorable aux associés in fine, puisque la fiscalité est adoucie et donc la performance est meilleure. Mmh. Et donc, elles repensent de cette manière, comme vous pouviez le suggérer, elles repensent de cette manière, la rentabilité, elle se renouvelle, en effet. Et les SCPI, elles sont polymorphes, donc elles peuvent avoir différents axes d'investissement.
Je parlais de la crise qui a frappé les SCPI, ou en tout cas certaines SCPI, mais ouais. Ça a un peu ressurgi sur l'ensemble de la classe d'actifs. Et on a observé, notamment il y a un peu plus d'un an, une baisse quand même assez significative des flux. Vous en parliez au début. Est-ce que, enfin de l'importance de ces flux, j'entends. Est-ce que ça a des implications, on va dire, pour les investisseurs ? Parce que bon, les SCPI, elles ont dû faire avec, elles ont dû gérer tout ça. Mais est-ce que pour les investisseurs... Ça a eu un impact en 2024, par exemple, d'avoir eu un peu moins de rentrées en fin 2023.
Alors, ça a deux impacts. Le premier, positif, évidemment, pour les nouvelles SCPI qui se lancent, forcément, elles captent plus de collectes. Et donc, elles sont à un moment de marché, comme on le disait, qui est plus intéressant. Donc, elles ont un meilleur rendement. Donc, elles captent encore plus de collectes, etc., etc.
Donc, c'est vertueux.
C'est vertueux, ouais. Etc. Et vous avez raison. Et à l'opposé, vous avez des SCPI plutôt anciennes, qui ont un portrait robot plutôt, qui ont des traits communs plutôt bancaires, plutôt années 80, plutôt investis sur des bureaux en Île-de-France, qui, elles, en effet, pâtissent un peu de la non-collecte, ou du moins qui doivent se réinventer. Et cette réinvention, elle passe par un arbitrage. Elles doivent faire un focus sur l'arbitrage, être assez actives. Et en effet, l'impact sur les associés dans ce cercle vicieux, c'est qu'ils se retrouvent avec un rendement moindre, ils se retrouvent avec des SCPI qui doivent vendre au mauvais moment de marché pour celles qui sont vendeuses, et donc un rendement qui est moins élevé, et donc des stocks de parts en attente qui sont évidemment qui grandissent, etc., etc. Je ne vous rappelle pas le cercle vicieux.
Ces questions-là, ouais, sont malgré tout derrière nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire aux investisseurs, les ajustements de prix de part, tout ça, ces réévaluations, c'est dans le rétro. Aujourd'hui, la SCPI est repartie de l'avant.
Alors, je ne suis pas devin, évidemment.
Non, mais bien
sinon,
sûr. Non, mais...
Sinon, je ne serais pas là. Mais je pense qu'il y a encore quelques corrections.
J'espère que même devin, vous viendriez me voir un petit peu.
Et je vous dirais sur quoi investir. Il y a quand même des choses qui sont importantes. C'est que je pense qu'on n'a pas fini la correction sur certaines SCPI.
D'accord.
Certaines SCPI qui ont un portrait robot commun, qu'on évoquait à l'instant. Je pense qu'elles n'ont pas fini de corriger. Et en effet, on va voir des arbitrages assez forts dans les prochains mois. Celles, en revanche, qui sont en montée en puissance, là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Et pour elles, la crise est forcément porteuse, si on peut parler de crise.
Et il y a des défis, entre guillemets, qui vous semblent incontournables aujourd'hui, que les SCPI doivent relever pour être dans le wagon de tête, on va dire. Oui, voilà.
Alors, les défis clairs, c'est un, ne pas trop collecter trop fort, trop rapidement.
Donc, savoir parfois fermer la collecte ?
Fermer, en tout cas modérer. Parce que ce qu'on reproche aux SCPI qui ont trop collecté, qui sont obligés de dévaloriser aujourd'hui, c'est précisément qu'elles ont trop collecté. Et on encense celles aujourd'hui qui sont nouvelles, qui collectent fort et qui concentrent la collecte. Mais finalement, on encense exactement les SCPI pour les mêmes raisons que pour lesquelles on peut critiquer les SCPI qui dévalorisent. Donc, attention à cela. C'est les défis, je pense, de ces prochains mois, prochaines années. Et puis, je pense qu'il y a aussi un aspect... il ne faut pas annoncer un rendement trop fort. Et je sais que les SCPI sont tentés, en général, de faire une course à l'échalote. C'est pas parce qu'on a
un fort rendement. Oui, c'est un peu comme rendement. Les fonds euros en assurance vie. Il y a toujours le petit moment où il y a le tir groupé et il faut ressortir beau et fort.
Exactement. Donc, on a des SCPI aujourd'hui.
Donc, peut-être ne faut-il pas le faire, c'est ça ?
Peut-être ne faut-il pas le faire, ou en tout cas, peut-être ne faut-il pas axer toute sa communication là-dessus. Nous-mêmes, on est les premiers Français SCPI à faire en effet des classements par taux de distribution décroissant, parce que c'est ce que recherchent les épargnants, mais je ne suis pas sûr que ce soit le seul argument sur lequel il faille appuyer, tout simplement.
Juste pour terminer, Paul Bourdois, vous nous avez rappelé, et puis Yann l'avait fait aussi, que les SCPI se diversifiaient, qu'on pouvait effectivement être dans plusieurs zones, sur plusieurs typologies, etc. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a tel ou tel choix qui doivent absolument être faits par une SCPI digne d'être sélectionnée, par exemple? On a beaucoup pointé du doigt les bureaux au moment du Covid, les hôtels, les commerces. Enfin, il y a eu tout un tas d'actifs qui, parfois, ont instillé du doute. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, pour être dans le tiercé ou dans le quinté, une SCPI, elle doit être investie là-dedans et pas dans... Voilà.
Alors... Tous ces œufs dans le même, on met pas tous ces œufs dans le même panier. C'est ce que j'ai envie de dire, et que en effet investir sur une typologie parce qu'on pense que cette typologie, elle a, ça peut être la santé, ça peut être la logistique, elle peut avoir un potentiel fou dans les prochaines années. Je pense que c'est une erreur. C'est ce qui s'est passé pendant les années Covid, donc à partir de 2020, on encensait, pour reprendre ce terme, la logistique, la santé, mais c'est des secteurs qui ont une profondeur de marché qui est moins élevée que d'autres classes d'actifs. Donc je pense qu'il ne faut pas justement être un ayatollah du monotypologique. Il ne faut pas se dire, si, il faut aller sur cette typologie-là. Non, il faut regarder des SCPI qui sont plutôt diversifiés, regarder des SCPI qui investissent dans différentes classes d'actifs. Finalement, on parle de diversification. Moi, je parlerai plutôt d'opportunisme. Il faut regarder des SCPI qui sont opportunistes, avant tout.
Merci, Paul.
Merci, Cédric Decoeur.
Paul Bourdois et France SCPI dans Cœur de Patrimoine. Voilà, c'est la fin de l'émission pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain. Merci de votre confiance.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.